Tu veux boire quelque chose? Chaud, froid?
Ou un thé, oui.
Un thé.
C'est possible.
Ok, donc je laisse la parole au Rav Cherki, roi d'Arabe de Bakasha. Tu veux comme ça? Comment tu veux?
Ce qui, est... ce qui non, marche.
Ça marche tout, hein. Décide ce que tu veux.
Bonsoir, shalom, ouvracha, chak sameach, à tout le monde. On m'entend?
Oui, on t'entend. C'est pas ce qu'on entend. On m'entend?
On t'entend.
Hein?
Si tu dis qu'on m'entend.
On m'entend, on t'entend. Je veux plus fort.
Bon. Comme chaque année, nous nous retrouvons grâce au CNEF, grâce à tous nos amis. Et je voudrais vous entretenir aujourd'hui d'un sujet simple. Je ne sais pas, vous avez vu le programme? Il a été imprimé? Emmanuel, il a été imprimé le programme?
Oui, à l'époque.
Oui, oui, oui. Bon. Donc, sur le programme, il est imprimé que... Non? On vous a pas dit? Bon, c'est pas grave. Le thème qui a été transmis aux organisateurs et qui ont certainement fait leur travail, c'est la source et la joie. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement de la réjouissance qui était organisée dans le Beit HaMikdash à l'époque du Temple, donc à Simchat Beit HaShoeva, la joie qui éclatait lorsque l'on puisait l'eau qui allait être déversée en libation sur l'autel. Le Nissur HaMaim. Bon, vous savez que c'est une mitzvah, c'est un commandement de se réjouir pendant toutes les fêtes, mais lors de la fête de Sukkot en particulier. Et vous savez que ce n'est pas si simple. Un juif heureux, c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose, même d'ailleurs, qui est un peu louche, qui a besoin d'être vérifié. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que quand deux juifs sont installés ensemble au restaurant, dans un café, et qu'après un quart d'heure de silence, il y en a un qui sort un soupir et qui dit « Oy vey », qu'est-ce qui lui répond l'autre? Il dit « Tu dis ça à moi ». Et donc, on voit brusquement qu'il y a des juifs heureux, à tel point même que le Talmud nous dit « Mishe lora'a simchat betashoeva, lora'a simcha miyamav », celui qui n'a pas vu la joie de la puisatrie n'a jamais vu de joie de sa vie. C'est très intéressant. Si c'est une joie que l'on a vue nulle part ailleurs, c'est donc une joie de la fin des temps. C'est une joie d'un monde absolu, d'un monde dans lequel il n'y a plus de problème. Et vous savez que, effectivement, les Juifs ont l'habitude d'être insatisfaits de l'état du monde. On pourrait dire même, c'est un enseignement de Manitou à la Vache à l'homme, que c'est l'expérience fondamentale qui a formé l'hébreu. Abraham Avinu a commencé sa carrière en étant insatisfait. Vous savez, chez les philosophes, on cherche à trouver une clé de voûte qui expliquerait l'ensemble des phénomènes du monde. C'est pour ça, par exemple, que les philosophes ont besoin de prouver l'existence de Dieu. Pour eux, c'est très important parce que ça complète le système. Le système est incomplet si, en haut de la pyramide, il n'y a pas un Dieu, donc il y en a un. On pourrait dire que l'exigence des philosophes, c'est un monde clos, un monde parfait dans lequel on peut tout expliquer. Et si pour expliquer, il faut que Dieu existe, eh bien, il existe. Tandis que chez Abraham Avinu, par exemple, si vous regardez dans les Midrashim, eh bien, Abraham Avinu, c'est quelqu'un d'insatisfait par définition. Il n'est pas content des réponses qui lui sont données. Il se demande, mais qui est Dieu? Alors au début, il pense le soleil, après c'est la lune, après c'est les nuages, après c'est le vent, après c'est... Il ne sait pas. Et le Talmud nous dit qu'il est resté finalement dans une sorte d'instabilité. Navor, il était dans l'inquiétude. Et c'est à travers cette inquiétude, cette insatisfaction fondamentale, qu'Abraham Avinu rencontre la parole du Créateur. Ni etzit salav balabira. Et donc, vous voyez que être content de l'état du monde, c'est quelque chose, on pourrait dire, presque d'hérétique pour un juif. Effectivement, le monde n'est pas encore parfait. Il viendra un temps où le monde sera parfait, mais on n'y est pas encore. Et comme on n'y est pas encore, il n'y a pas de joie. Je vais vous raconter une anecdote véritable. Ce que je vous raconte, c'est vrai. Il y avait, à la fin du 19e siècle, à Jérusalem, un homme dont vous avez certainement entendu parler, Eliezer ben Yehuda, qui était le rénovateur de la langue hébraïque à l'époque moderne. Mais à part ça, il n'était pas seulement réinventeur de l'hébreu, il était également anti-religieux, violemment anti-religieux. Il n'aimait pas les rabbins, il n'aimait pas les religieux, et les religieux ne l'aimaient pas non plus. Il était en fait un des inventeurs de ce qu'on appelle aujourd'hui, en termes modernes, la chilonoute israélienne. Bon, ça n'existait pas encore, mais enfin, c'était ça qu'il voulait créer. Il a décidé d'organiser des danses dans un yishuv, pas loin de Jérusalem, du nom de Ekron. Et à l'époque, quand on organisait quelque chose de ce genre, il fallait expliquer pourquoi. Alors, il a écrit un article dans la presse dans lequel il a expliqué qu'il faisait des danses parce qu'il fallait ramener dans le peuple juif la joie de vivre. Et la réaction dans les journaux de Jérusalem de l'époque ne s'est pas fait attendre. Quelqu'un a écrit, je vais vous le dire en hébreu parce que c'est intraduisible, « Im hafetz lo mar ben Yehuda besimchat achaim, yelech lo pariza. » C'est-à-dire, Monsieur ben Yehuda désire la joie de vivre, qu'il aille à Paris. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de joie en Eretz Israël, un lieu sacré? C'est de la folie. Et c'est-à-dire que, pour un juif traditionnel, dans le sens fort du terme, se réjouir de la vie est quelque chose de louche, quelque chose qui ne va pas de soi. Effectivement, il y avait un commandement particulier de joie lors de la fête de Sukkot dans le temple, qui est absolument inusuel. Et non seulement on se réjouissait, mais pourquoi est-ce qu'on se réjouissait? Vous savez qu'on a l'habitude de se réjouir parfois quand on accomplit une mitzvah. Ça s'appelle simcha shel mitzvah. On est tout content d'accomplir une mitzvah, alors on se réjouit. Mais c'était quoi la mitzvah? C'était quoi le commandement lors de la fête de Sukkot? Le commandement, c'était la libation de l'eau sur l'autel. Et donc, on devrait appeler ça Simhat Nisuch HaMaim, la réjouissance de la libation. Mais ce n'est pas du tout ça qui est dit dans le texte. On appelait ça Simhat Vetashoeva, la joie du fait de puiser. Or, puiser n'est pas une mitzvah. C'est verser l'eau qui est une mitzvah, mais puiser n'en est pas une. Et donc, on se réjouit de quelque chose qui n'est même pas une mitzvah. Quelque chose qui est un moyen. Ça veut dire beaucoup de choses, en vérité. Ça veut dire qu'il y a, depuis très longtemps, depuis les origines du monde, il y a une sorte de divorce entre le moyen et la fin. Entre ce que le texte de la Torah appelle « ta'ama etz » et « ta'ama pri ». Le goût de la branche et le goût du fruit. Si vous avez des arbres fruitiers, ben vous voyez que c'est le fruit qui a du goût. Et la branche n'a pas de goût. Le moyen n'a pas le goût de la fin. Et c'est extrêmement décevant parce que 99% de notre temps, nous l'employons à des moyens et pas à des fins. C'est nous passons notre temps à manger et à boire pour avoir de la force. Et on se repose pour avoir de la force. Et quand on a de la force, c'est pour quoi faire ? Eh bien, c'est pour aller au travail. Mais pourquoi est-ce qu'on va au travail? C'est pour gagner de l'argent. Et pourquoi est-ce qu'on gagne de l'argent? C'est pour pouvoir étudier la Torah. Ah bon? Mais dis donc, alors combien de temps on passe à ça? On passe notre temps à des moyens au lieu de s'occuper de la fin. Ce qui fait que le monde, l'existence est très décevante. Mais lors de la fête de Sukkot, on a eu cette intuition que la fin a le goût du moyen. Et c'est la raison pour laquelle on se réjouit du fait de puiser l'eau, pas seulement de verser l'eau, pour quelque chose qui entraîne la mitzvah et pas quelque chose qui est la mitzvah en elle-même. Et on est tellement content que ça engendre le rire. Vous savez, c'est pas facile de rire. Le Talmud, dans le traité de Berachot, dit que celui qui emplit sa... On n'a pas le droit d'emplir sa bouche de rire dans ce monde. Assur la Adam chez Malé Pif Sechok Barolamazé. Parce que quand on rit dans ce monde, c'est qu'on est satisfait de l'état du monde. Or, être satisfait de l'état du monde, eh bien, c'est une forme de cruauté. Parce que ça veut dire que l'on est satisfait d'un monde dans lequel il y a beaucoup de mal. Et donc, on ne peut pas vraiment rire dans ce monde. Et puis, on voit brusquement que lors de la fête de Sukkot, eh bien, on évoque le rire. Le rire de qui ? Eh bien, le rire de Dieu lui-même. Vous savez, il y a un Italien qui a écrit un livre pour savoir si Dieu rit ou pas. Et bon, la conclusion du christianisme, c'est que Dieu n'a pas le sens de l'humour. C'est à travers sa souffrance qu'il amène la rédemption du monde. Ce qui est en soi une blague. Mais tandis que, d'après le Talmud, Dieu a le sens de l'humour. Et le Talmud nous raconte la blague qu'il fera à la fin des temps. Il la fera justement à la fête de Sukkot. À la fête de Sukkot, lorsque les goyims, vous connaissez certainement ce texte, c'est un texte bien connu, lorsque les goyims voudront faire une soukha, et qu'il fera tellement chaud qu'ils sortiront de la soukha en donnant un coup de pied dans la soukha, et Dieu rira. Et le Talmud dit, mais sache que c'est le seul jour de l'histoire où Dieu rira. En tzrok lifne akadosh baruchu, ela oto ayom bilvad. Mais la Gemara tout de suite nous dit, mais c'est pas vrai. Dieu rit tous les jours. Et alors on nous fait son emploi du temps. Il y a 12 heures dans la journée, 3 heures pour juger, juger le monde, et puis après 3 heures pour alimenter le monde, et encore 3 heures pour étudier la Torah. Et après 3 heures, qu'est-ce qui lui reste ? Ben, c'est pour s'amuser avec le Léviathan. C'est-à-dire, Dieu s'amuse tous les jours. C'est ainsi qu'il est dit, Léviathan Zéatzart Alessatrigbo, le Léviathan que tu as créé pour jouer avec lui, pour rire avec lui. Donc on voit que Dieu a le sens de l'humour tous les jours. La Guémara dit, non, oui, mais ce n'est pas du tout la même chose. S'amuser avec le Léviathan, c'est une chose. S'il s'amuse avec sa créature, la créature aussi est contente. Le Léviathan est content de jouer avec Dieu. Tandis que se moquer de ses créatures, c'est ce qu'on appelle de l'humour noir, ça c'est réservé pour la fin des temps. C'est-à-dire, il y a des degrés de sens de l'humour qui ne sont réservés que pour un monde parfait. Et ça, ça se passe à Sukkot, justement. Lorsque les goyim feront la soukha, c'est là que le rire de Dieu se révélera dans sa plénitude. Et alors, mais comment se réjouir ? C'est vite un problème. Alors, la Guémara nous dit, d'abord, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut se réjouir lorsqu'on puise de l'eau ? C'est écrit en toutes lettres dans le prophète, Ushavtem Maim Besason, Mimarina Yeshua. Vous puiserez de l'eau avec joie, des sources de la délivrance. Alors, là s'introduit tout un débat dans le texte talmudique pour savoir qu'est-ce qu'on désigne exactement par le terme de joie. C'est-à-dire, en hébreu, vous avez deux termes possibles, Sason et Simcha. Sason, c'est quand on est occupé. Et Simcha, c'est quand on est libéré de toutes les occupations. Je rigole pas, c'est absolument vrai. Sason, c'est ce que l'on ressent lorsqu'on est en route vers la réalisation de son projet. J'ai un projet, je sais que je vais bientôt le réaliser, et je suis donc en situation de joie. C'est la joie de la, disons, de la certitude que quelque chose de bien va se faire. Ça s'appelle Sason. Et puis il y a Simcha. Simcha, c'est la joie quand j'ai enfin réalisé mon projet. Bon, si vous voulez, on peut faire une image. C'est comme quelqu'un qui remplit un verre. Le verre n'est pas encore rempli. Mais il est en route d'être rempli. Ça s'appelle Sason. Une fois que le verre est plein, eh bien, c'est Simcha. Et puis, vous avez parfois quand le verre déborde, quand il y a plus que sa limite, alors il sort de sa limite. C'est Hok. C'est le rire. Il sort de ses limites. Et donc, le Talmud débat de savoir exactement quelle est la joie préférable. Est-ce qu'il faut préférer Sason ou Simcha ? Et alors, la Guémara nous raconte toute une histoire à dormir debout sur un dialogue entre deux hérétiques. L'un qui s'appelle Sason et l'autre qui s'appelle Simcha et qui discutent sur la base de versets. Ils font tout un ping-pong de versets pour savoir qui c'est qui est, vaut mieux que l'autre. Alors, il y en a un qui amène le verset, Sason, Vesimcha, Yasigu. Donc, on voit bien que Sason est avant Simcha. Et un autre verset qui dit « Simcha vesason la Yehudim ». Donc on voit bien que Simcha est plus important. C'est absolument une histoire absolument incroyable. Finalement, la Guémara les renvoie dos à dos. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on appelle de si beau... D'abord, on n'a jamais vu que la Guémara s'occupe tellement de nous raconter les dialogues des hérétiques. On a déjà assez de travail à parler des dialogues entre les rabbins. Alors pourquoi nous amener également un dialogue entre deux hérétiques, comme si on n'avait que ça à faire? Et pourquoi appeler les hérétiques de noms si beaux? Sasson, Simcha, ce sont des jolis noms, non? Recommandés pour vos enfants. Alors pourquoi donner ça, c'est donner ces noms-là à des hérétiques? Alors là, il faut rentrer dans un sujet un peu sérieux. C'est qu'est-ce qu'on entend par perfection? Il y a, chez les philosophes, deux écoles, si vous voulez. Il y avait un goy, je crois, d'origine grecque, du nom d'Aristote. Oui, Aristote, c'est ça. Aristote, qui définissait la perfection. Alors, tenez-vous bien, parce que vous êtes juifs, vous n'avez pas l'habitude, mais pour Aristote, la perfection, c'est ce qui a des limites. Quelque chose qui est bien délimité, c'est ça le parfait, d'après lui. En hébreu, shlemut. Mais il y a une idée ici de finitude. Dans la finitude, il n'y a pas de perfection. Et puis, il y a une autre opinion, celle d'un philosophe beaucoup plus tardif, d'origine d'ailleurs juive, Henri Bergson, pour qui l'évolution permanente, l'évolution créatrice, eh bien c'est ça la perfection. En hébreu, ishtalmut, en français, perfectionnement, si vous voulez. Et le Rav Kook, qui a l'habitude d'avoir raison dans ses enseignements, explique en fait que les deux ont tort parce que les deux ont raison. C'est-à-dire, on ne peut appréhender l'idée de perfection que si on regarde des deux côtés à la fois. Il faut à la fois la perfection de la Shlemut et la perfection de la Ishtalmut, à la fois la plénitude et le perfectionnement. À tel point même que le Rav Kook va très loin, il dit... La raison pour laquelle Dieu, qui est parfait, a créé le monde, c'est parce qu'il lui manquait quelque chose. Qu'est-ce qui lui manquait? Ben, le perfectionnement. Il était tellement parfait qu'il lui manquait de se parfaire. Et donc, il a créé le monde pour ajouter le perfectionnement à sa perfection. Et donc, Sasson, qui ne représente que Bergson, et Simcha, qui ne représente qu'Aristote, ce sont des hérétiques. S'il n'y a pas à la fois Sasson et Simcha, s'il n'y a pas à la fois un but vers lequel on peut tendre, mais également la satisfaction d'y être arrivé parfois, alors on est dans un manque permanent. Ce n'est pas ça la plénitude de la joie. Voilà, je vous ai assez cassé les pieds. Maintenant, je voudrais rentrer à nouveau dans ce qui se passait à Sukkot. Alors, pour comprendre ce qui se passait à Sukkot, je vous ai remarqué que la fête de Sukkot est très différente des autres fêtes, dans ce sens qu'elle est extrêmement pastorale. Par exemple, elle se fait d'abord en dehors de la maison. C'est-à-dire pendant toute la fête de Sukkot, on est en dehors de chez soi. Et où est-ce qu'on est? Ben, on est dans une cabane de branchages. Et les branchages, ça doit être des branchages, ça n'a pas du plastique, ça n'a pas du métal. Il faut que ce soit quelque chose de végétal. Et puis, à part ça, on passe tous les jours un peu de temps à agiter un bouquet de branchages, des plantes. Et puis, on se réjouit pour avoir puisé l'eau à la source. Et puis, on tourne avec le loulav autour de la teva. Il y a des éléments de liaison avec la nature qui sont très forts, beaucoup plus forts que dans les autres fêtes. Et il y a une raison à cela. Vous savez que le retour à la nature, préconisé par certains mouvements dans l'histoire, le retour à la nature a toujours fait un peu peur chez les Juifs. C'est-à-dire que il y a souvent ce sens, quand on entend quelqu'un dire il faut revenir à l'être naturel, il faut revenir à la nature, on se demande où est-ce que se cache le fasciste? C'est-à-dire que souvent, les mouvements qui ont appelé à un retour à la vie naturelle ont finalement encouragé la barbarie. Parce que l'homme n'est pas un être de nature. L'homme est un être moral. Et à partir du moment où on veut se définir par rapport à la nature, eh bien, on risque de perdre son identité morale. Donc, il y a toujours eu une sorte d'hésitation, de prudence des Juifs par rapport au monde de la nature. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu toujours une sorte de division intérieure dans l'être juif entre, d'une part, la puissance de la spiritualité et la puissance de la morale, et contre ça, il y a les forces de la nature, souvent considérées comme dangereuses, maléfiques même. C'est arrivé à un point d'ailleurs extrême dans une des dérivées du judaïsme, le christianisme, qui a démonisé le monde de la matière, le monde de la nature, parce que la nature entraîne le péché. Alors, chez les Juifs, on n'a pas été jusque-là, mais il y a toujours eu une prudence. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une institution juive extrêmement importante qu'on appelle le Shtiblar. Vous connaissez ? Dans le Shtiblar, c'est un lieu où l'on rend un service à l'Éternel. Et c'est très important que le formica soit un peu cassé et que la fenêtre ne soit pas réparée et que les rideaux pendouillent un peu. C'est important. C'est-à-dire, il y a une sorte de mépris affiché par rapport à la perfection. On a peur de ça. On se dit, attention, c'est vrai, il faudrait réparer, mais repoussons cela un peu. Il y avait un juif qui a très bien compris cela au début du XXe siècle. Il s'agissait de Franz Rosenzweig. Franz Rosenzweig, juif qui a grandi dans la culture allemande de son temps, qui a été tenté par le christianisme et qui, avant de se convertir au christianisme, a décidé de faire un dernier kippour qui l'a convaincu de ne pas se convertir au christianisme. Bonne chance, quand même. Et ça l'a amené à écrire un livre du nom de l'Étoile de la Rédemption. Et, bon, vous connaissez certainement, c'est un livre très connu, qui est fait de trois volets. Le premier volet est fait d'un triangle qui a le sommet vers le haut. C'est la page de garde du premier volume, de la première partie. La deuxième partie représente un triangle qui a le sommet vers le bas. Et la troisième partie, c'est l'unité des deux triangles. Devinez ce que ça vous fait. Vous pouvez dessiner et vous découvrirez par vous-même. Ça représente une étoile qu'il appelle l'étoile de la rédemption. Alors, en quoi consiste le premier triangle? Le premier triangle, c'est en haut du triangle, au sommet, vous mettez Dieu. Et puis, en bas à droite, vous mettez le monde. Et en bas à gauche, vous mettez l'homme. Dieu, le monde et l'homme. Dieu, le monde et l'homme, c'est très joli. Dieu, c'est l'origine du monde et l'origine de l'homme. Mais entre l'homme et le monde, il y a un divorce. C'est-à-dire, l'homme vit son histoire séparée du reste du monde. Et il y a, dans le deuxième triangle, il y a les relations entre les trois sommets. Entre les trois angles. Entre Dieu et le monde, il y a la création. C'est-à-dire, comment est-ce que Dieu se met en rapport avec le monde? Il le crée. Et puis, comment est-ce que Dieu se met en relation envers l'homme? Eh bien, il se révèle. La révélation, la Torah. Et puis, en bas, le dernier angle, avec le triangle à son sommet vers le bas, c'est la rédemption. C'est la réconciliation de l'homme et du monde. Lorsque l'homme et le monde sont réconciliés, alors là, nous savons que le monde peut réussir. C'est alors qu'il y a la joie. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe lors de la fête de Sukkot. Il y a une réconciliation de l'homme et du monde. Vous savez que ça a commencé d'ailleurs un peu mal, l'histoire des hommes. Ça a commencé lorsque Dieu a interdit à l'homme de jouir pleinement du monde. Vous connaissez l'histoire du Jardin d'Éden? C'est une histoire absolument incroyable. Dans l'histoire du Jardin d'Éden, avec l'histoire de l'arbre, le fruit de l'arbre, le fruit défendu, l'arbre de la connaissance, on a un sentiment de malaise quand on lit cette histoire. On peut s'imaginer la jardinière d'enfants qui dit aux enfants, voilà, chers enfants, sur la table au milieu du jardin d'enfants, il y a une petite boîte, et dans cette boîte, il y a le meilleur bonbon du monde. Mais c'est interdit d'y toucher. Personne n'y touche, n'est-ce pas? D'ailleurs, je vais sortir pour 5 minutes et je reviens tout à l'heure. Et puis elle revient après 5 minutes, la boîte est ouverte, il y a un gosse qui est tout sali de sucre de tous les côtés, et elle dit, qui c'est qui a ouvert la boîte? Je ne sais pas moi, mademoiselle. Et elle dit, ah si, c'est toi, et elle le jette en dehors du jardin d'enfants, et c'est à cause de ça qu'il y a des problèmes dans l'histoire jusqu'à nos jours. Voilà, c'est à peu près de ça que ça a l'air. Alors, est-ce que vous y croyez? Vous n'allez quand même pas me dire que non, puisque c'est écrit dans la Torah. Mais il faut comprendre ce que dit la Torah. Et la Torah, elle dit quelque chose de très simple. L'accès à la pleine jouissance demande un délai. Jamais la Torah n'a dit qu'il était interdit absolument de manger dehors de la connaissance. Il faut simplement attendre. Qu'est-ce que dit la Torah? N'en mange pas aujourd'hui, parce que si tu en manges aujourd'hui, tu vas mourir. Alors attends jusqu'à demain. Alors qu'est-ce qu'il faut faire entre-temps? Eh bien, il faut prendre un antidote contre la mort. Si tu arrives à régler le problème de la mort, non seulement tu pourras manger de l'art de la connaissance, mais tu auras le devoir d'en manger. Ainsi que dit la Torah. Mikol ha'etzaga nachol tochel. Il faut que tu manges. C'est un devoir de manger de tous les arbres du jardin, donc y compris l'art de la connaissance. Il faut simplement manger l'art de la vie auparavant. Donc, quel était le problème du premier homme? C'est qu'il a fait des études universitaires avant d'avoir été à la yeshiva. C'est-à-dire, il a commencé par l'arbre de la connaissance au lieu de commencer par l'arbre de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Alors, vous voyez que ça a mal commencé. C'est-à-dire, l'histoire des hommes a très mal commencé. Il y a dès le départ un divorce entre l'homme et la nature, et ce divorce prend du temps à être réparé. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas? Eh bien, il faut être renvoyé. Renvoyé du jardin d'Éden. Et une fois qu'on est renvoyé, eh bien, il faut manger de l'arbre de la vie et après, manger de l'arbre de la connaissance. Alors, petite histoire de calendrier, ça s'est passé quand, cette histoire? L'histoire de l'arbre de la connaissance, pour autant que je me rappelle, ça s'est passé à Rosh Hashanah, le premier du mois de Tishrei. Le premier homme a fait la gaffe monumentale, il a mangé de l'arbre de la connaissance sans manger de l'arbre de la vie. Il est jeté en dehors du jardin d'Éden, et il passe donc ses premiers jours sur cette terre, dans notre monde, pendant les 10 jours de pénitence, Aseret Yemei Teshuva. Arrive le jour de Kippour, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on fait le jour de Kippour. Le jour de Kippour commémore un événement extrêmement important dans l'histoire d'Israël. Vous savez certainement quel est l'événement commémoré par le jour de Kippour. C'est le jour où nous avons reçu la Torah. N'est-ce pas? Vous savez, quand Dieu a prononcé les 10 commandements, personne, on n'a rien reçu dans les mains. Le 17 Tammuz, les tables auraient dû venir, elles ont été brisées. Finalement, Moïse ramène les tables de la loi le 10 du mois de Tishrei, Kippour. C'est quoi l'étape de la loi? Ben, c'est la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est l'arbre de la vie. Donc, à Kippour, on mange de l'arbre de la vie. Alors, on peut maintenant entreprendre de manger de l'arbre de la connaissance. C'était quoi l'arbre de la connaissance? Vous fichez de ma pomme? Non, c'était le cédra, le hétrog, enfin, c'est ce que dit le Midrash. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cédra qui fait que c'est un arbre, c'est un fruit tellement important? Eh bien, la Guémara nous dit parce que c'est un arbre, le goût du fruit et le goût de la branche, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est un fruit sans problème. C'est un fruit dans lequel il y a plénitude. Et grâce à cette plénitude, eh bien, donc, on peut avoir la joie totale. Simplement, il faut d'abord passer par l'effacement des péchés. Et l'effacement des péchés se fait pendant les 10 jours de pénitence, Aseret Yemei Teshuva. À partir de là, on mange de l'arbre de la vie. Et à partir de là, donc, on peut à nouveau abolir l'interdiction de se servir de l'arbre de la connaissance. Mais ça se fait en 2 moments. C'était quoi la première interdiction à lever? Eh bien, il faut d'abord lever l'interdiction d'y toucher. Vous savez que Chava, notre mère, c'est interdit de toucher à l'arbre de la connaissance. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est le toucher. Comment ça se fait? Ah, j'y croyais plus. Oui. Oui. Ah, finalement, c'est arrivé quand même. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont dû sentir que je commençais à devenir enroué. Alors, ils ont eu pitié de moi. Bon. Et donc, là... Où est-ce que j'en étais? Ah oui. Il faut donc lever l'interdiction de prendre en main l'arbre de la connaissance. Et c'est pour ça que lors de la fête de Soukhot, on le prend en main. Quand est-ce qu'on le mange, le etrog? Eh bien, la Mishnah nous dit que lors du jour de Hoshana Rabba, c'est-à-dire demain matin, les enfants mordaient dans le etrog. Pourquoi les enfants? Parce que les enfants n'ont pas de péché. Et les adultes? Les adultes, ils attendent jusqu'à Toubishvat. À Toubishvat, on fait de la confiture de cédra. Et c'est là qu'on est assuré, après avoir passé un hiver entier à étudier la Torah chez soi, puisque pendant l'hiver, on ne peut pas faire d'activité agricole, eh bien c'est là que l'on sait qu'on a pleinement imprégné les données, les acquis des jours, des festivités de Tishré, et alors on peut manger, enfin, du etrog, mais sous forme de confiture. C'est quoi la confiture? La confiture... Vous allez voir, ce sont des choses qui ont l'air tout à fait banales. Mais vous n'avez pas... Comment est-ce que dans des habitudes culinaires se cachent des grands secrets de la Torah? La confiture, c'est une manière de faire la rédemption des écorces. Quand vous avez une clipa, vous savez que dans un fruit, vous avez quelque chose que vous mangez, la pulpe, et puis vous avez l'écorce que vous jetez. C'est le thème, donc, de la sainteté et de la clipa, de l'écorce qui représente le mal, qui est rejeté. Et quand vous faites de la confiture, vous faites la rédemption des écorces. Et donc, vous avez une réconciliation totale avec le monde. C'est ça que préfigure le etrog. Cette idée d'un monde dans lequel il n'y aurait plus de tension intérieure entre le spirituel et le matériel, entre le moral et la nature. Voilà, c'est ça l'aspiration de ce jour-là. Il y a, pour pouvoir revenir... Pour pouvoir accéder à cette dimension de plénitude, il faut, et c'est là le point fondamental de notre étude ce soir, il faut se ressourcer. On allait puiser, à l'époque du temple, donc on allait puiser l'eau dans la source qui est en bas du temple, la source du Gihon, dans la source du Shiloah, plus précisément. Et de là, on amenait l'eau, en sonnant du shofar et des trompettes, jusque dans le parvis du temple, et on déversait l'eau sur l'autel. Mais je ne sais pas, si vous déversez l'eau sur l'autel, ça va dégouliner de tous les côtés, non? Pas du tout. Il y avait dans l'autel un trou. Ce trou est appelé « shittim ». Et jusqu'où est-ce qu'il arrive, ce trou? La Guémara nous dit, il arrivait jusqu'à l'abîme souterrain qui est en dessous du monde. Vous savez que la terre est plate et qu'elle flotte sur un abîme. Et que si l'eau de cet abîme arrivait à sortir, le monde serait inondé. Et donc on versait l'eau dans le trou qui était dans creusé dans l'autel, et ça arrivait jusqu'à l'abîme souterrain. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on essayait de revenir à la source originelle. C'est-à-dire, il y a, dans notre vie, très souvent, nous sommes occupés à beaucoup de choses, et ces choses nous éloignent de notre origine à nous. Nous ne savons plus vraiment qui nous sommes. Alors, parfois, il y a une sorte de nostalgie de l'origine, une nostalgie de l'enfance. Tous les psychologues savent très bien de quoi il s'agit. Ça coûte 350 shekels à 500 shekels à peu près par séance, pour expliquer que l'on a la nostalgie de la pureté de l'enfance. Alors, il y a une sorte de nostalgie également de la pureté originelle du monde. Eh bien, c'est ça que l'on faisait le jour de Soukhot. Mais alors, attention, c'est très dangereux ce que je viens de vous dire. « Parce que la nostalgie de l'origine, c'est un désir de mort. Il y a, effectivement, dans la mythologie grecque et dans la mythologie occidentale qui en est l'héritière, il y a cette idée que la vie, en fait, est une sorte de détérioration. C'est une dégradation. Il y avait un âge d'or, et puis après, il y a eu l'âge d'argent, et de cuivre, et de fer. Et donc, plus les choses avancent, plus elles descendent. Et donc, il y a toujours une nostalgie de l'origine, une nostalgie de la Genèse. On pourrait dire que c'est un peu ça qui se fait lors de la fête de Soukhot. Mais en fait, c'est faux. C'est faux, c'est très mal compris. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, dans le retour à l'origine, chez les Juifs, il y a un ressourcement qui va permettre justement de justifier la vie. C'est pour ça que le thème de ce soir, qui a été certainement publié par les organisateurs, c'est la source et la joie. C'est-à-dire, on se ressource non pas pour quitter le monde, non pas par dépit du monde ou par, disons, déception du monde à la manière des bouddhistes, par exemple, mais au contraire, on revient à l'origine parce qu'on est sûr, on a la certitude que le fait d'avoir quitté, d'avoir péché, n'était qu'un accident. Il faut parfois se retremper dans sa source, mais il faut en ressortir. Bon, l'image que je donne ici, c'est l'image du mikvé. Le mikvé, le bain rituel, ben, c'est un lieu où on se purifie. Alors, ceux qui en ont l'expérience savent que quand on rentre, c'est très mouillé, mais que ça purifie. Mais il y a une grande règle quand on entre dans un mikvé, c'est qu'il faut en sortir. C'est-à-dire, si vous y restez, c'est dramatique. Le mikvé n'est pas fait pour y rester, le mikvé est fait pour en sortir. De même, quand quelqu'un, par exemple, veut entrer dans le peuple d'Israël, ce qu'on appelle le guillot, il doit entrer dans le mikvé, et le Shulchan Aruch est très clair, il dit c'est quand il sort qu'il devient fils d'Israël. C'est-à-dire, il n'y a pas, disons, d'idéalisation absolue du retour à l'origine. On va à l'origine parce qu'on a fait des gaffes, on s'est un peu souillé. Alors, il faut se nettoyer. Pour se nettoyer, il faut revenir à la pureté, à l'innocence de la jeunesse. Mais une fois qu'on a réussi à le faire, eh bien, il faut en ressortir. Parce que le but, finalement, c'est la vie. Un peu, disons, c'est le thème qu'on retrouve dans la Teshuvah, dans son ensemble. La Teshuvah est un processus qui a des aspects parfois pathologiques. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous avez certainement pu observer ça, il y a des gens qui font teshuva. Il y a même une période de l'année pour ça, c'est le mois de Elul, jusqu'à Kippour. Pendant 40 jours, on s'occupe de faire teshuva. Alors, parfois dans les yeshivot, ça prend des aspects un peu inquiétants. Vous voyez un jeune homme qui jusqu'à présent était débordant de vie, et puis brusquement, le mois d'Elul est arrivé. Et puis il ne parle plus, il est un peu livide, il ne mange plus, il ne dort pas. Et alors la maman un peu inquiète le prend chez le psychologue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a mon fils? Et alors le psychologue, s'il est bien averti, dira « Madame, ne vous en faites pas, après Kippour, c'est fini. » C'est-à-dire, c'est un ressourcement qui est parfois nécessaire, qui est toujours nécessaire parce que la vie entraîne ces décadences, ces scories, mais le but n'est pas Kippour. Le but du jeûne de Kippour, c'est le repas qui vient après le jeûne. Vous êtes au courant, vous savez qu'après le jeûne de Kippour, il y a un usage qui est de faire un repas. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on mange après Kippour? Si c'est parce qu'on a faim, c'est certainement faux, parce que je ne sais pas, la plupart des gens savent qu'à la fin de Kippour, en général, on n'a pas faim. Et alors, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que le jeûne est fini. Ben, si le jeûne est fini, il suffit de prendre un biscuit, un morceau de pain, une banane. Mais la halakha dit qu'il faut faire un repas de fête. C'est donc qu'il y a quelque chose de très important qui se passe à ce moment-là. Le jeûne a réussi, c'est donc, on va le prouver maintenant. Comment est-ce qu'on sait que ça a marché? On est capable de manger. Et on va organiser maintenant une fête pastorale pendant 7 jours pour prouver que Kippour a réussi. C'est-à-dire, on est rentré dans la source pour en ressortir. Dans les prières de Kippour, quand on parle du service du grand prêtre à Jérusalem, dans le temple, on dit qu'est-ce qu'il était beau le grand prêtre lorsqu'il sortait du Kodesh HaKodashim. Pas quand c'est lorsqu'il y est entré ou lorsqu'il y était. C'est sa sortie qui est importante. Il est parti dans la source de la vie pour en ressortir quelque chose, pour illuminer la vie. Donc la source, le ressourcement doit engendrer la joie. Et à ce propos, il y a chez les prophètes de grandes promesses liées à la fête de Sukkot à la fin de l'histoire. Vous savez qu'à la fin de l'histoire, enfin à la fin de l'histoire politique, il doit y avoir une grande guerre. Une guerre démagogique, la guerre de Gog et Magog, qui doit se produire, d'après la tradition, à Sukkot. Et cette guerre de Gog et Magog finira, par la victoire du peuple d'Israël, la proclamation du nom de Dieu dans l'humanité tout entière. Et il y aura, et le prophète Zécharia nous dit, qu'une eau vive sortira. Ma'im Chaim, une eau vive, sortira de Jérusalem en ce jour. Et que la moitié de l'eau ira vers la mer Méditerranée, et que l'autre moitié de l'eau sera un fleuve qui inondera la mer morte. Et ça pose un problème parce que, je ne sais pas si vous connaissez la topographie de Jérusalem, il y a, à l'est de la vieille ville, il y a une montagne qu'on appelle le Mont des Oliviers. Et donc, il est absolument impossible que l'eau passe. Il y a une montagne qui empêche l'eau de passer. Et le prophète nous dit qu'il y aura de l'eau qui sortira. Oui, mais attention, le prophète nous a dit, vous n'en faites pas, le mont des Oliviers se coupera en deux. Il y aura un tremblement de terre et la moitié nord, c'est-à-dire d'est en ouest, il y aura une faille et la moitié de la montagne partira vers le nord. L'autre moitié partira vers le sud, et alors de l'eau jaillira du temple de Jérusalem vers l'Orient. Qu'est-ce que ça veut dire, ces histoires? D'abord, pourquoi est-ce que le bon Dieu, qui est un être si sage, a fait une montagne à l'est de Jérusalem? Vous savez pourquoi? La raison, c'est tout simple, c'est pour faire la vache rousse. On a besoin d'une vache rousse de temps en temps. C'est bon, on a besoin d'une vache rousse pour se purifier de l'impureté liée à la mort. Quand on touche à mort, par exemple, on devient impur. Donc on ne peut pas travailler dans le temple, on ne peut pas se rendre dans le Beth Amikdash. Donc on a besoin d'une purification qui se fait par de l'eau mélangée à un petit peu de cendre de vache rousse brûlée. Où est-ce qu'on brûle la vache rousse? Eh bien la vache rousse, il faut la brûler exactement dans l'axe qui sort du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints dans le temple, qui passe par la porte orientale, et face à cette porte orientale, le prêtre doit brûler la vache. Et ça permet de purifier les hommes de l'impureté des morts. C'est pour ça qu'on dit à la vache, à l'homme. Et donc, cette vache est brûlée à l'orient du temple. Maintenant, il y a un petit problème, c'est que lorsque vous regardez la topographie du temple de Jérusalem, vous voyez que ça descend. Donc, vous ne pouvez pas sacrifier la vache face au Kodesh HaKodashim, vous n'êtes pas au niveau, à moins d'avoir une vache extrêmement haute. Alors, la solution, c'est de faire toute cette cérémonie sur la montagne qui est en face du Kodesh HaKodashim. Donc, il faut qu'il y ait une montagne. Vous comprenez pourquoi est-ce que le bon Dieu il a fait une montagne maintenant à l'est de Jérusalem? C'est pour pouvoir faire la vache rousse. Alors, c'est très important, mais alors si c'est vrai ce que je vous dis là, lorsque le mont des Oliviers sera coupé en deux, on ne pourra plus faire la vache rousse. Comment est-ce qu'on va se purifier de la mort? Eh bien, ça ne sera plus nécessaire. Il n'y aura plus de mort. C'est-à-dire, viendra un temps où la vie va l'emporter sur la mort. C'est-à-dire, on a souvent ce sentiment que, ce qu'on appelle chez les scientifiques l'entropie, que le monde va en se dégradant. Mais il y a également dans le monde une force vitale qui fait que le monde se relève. Comme dit le Maharal de Prague, sur le verset « Somer Hashem lechol anophilim »« Dieu relève tous ceux qui tombent », le Maharal de Prague dit « Qui c'est qui tombe ?» Eh bien, c'est tous. Tout tombe. mais tout est relevé. Et donc viendra un temps où la ville emportera, une eau vive sortira du temple de Jérusalem. Et donc nous avons l'assurance que la vie va l'emporter sur la mort, que l'histoire va réussir. Et nous avons pour cela un indice. Nous avons, lors de la fête de Soukhot, l'habitude de mentionner sept personnages qu'on appelle les Ushpizim, les invités de la Soukha, qui rentrent dans notre Soukha. Et ça nous réjouit de parler d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Pourquoi est-ce qu'on est tellement content de tous ces gens-là? Eh bien parce que ces gens-là, ces sept personnages de l'histoire d'Israël, c'est grâce à eux que nous savons que l'histoire va réussir. Il a fallu, pour que l'histoire réussisse, que trois éléments soient mis en place. Le premier, c'est Am Israël, le peuple d'Israël. Sans peuple d'Israël, l'histoire n'a pas d'épine dorsale. Et donc, il a fallu pour ça Abraham, Yitzhak et Yaakov. Oui, mais si le peuple d'Israël n'a pas reçu la Torah, sa mission est très difficile à réussir. Alors, il a fallu envoyer Moshe et Aaron. Oui, mais s'il y a le peuple d'Israël, il y a la Torah, mais il n'y a pas Eretz Israël, alors qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de lieu de présence politique pour réussir. Alors il faut pour ça ma chère Ben Yosef et ma chère Ben David, donc il faut qu'il y ait Yosef et David. Donc à partir du moment où nous savons qu'il y a Am Israël, Torah Israël, Eretz Israël, nous savons que l'histoire va réussir. C'est pour ça qu'il a fallu attendre, pour vraiment commencer l'histoire, d'arriver au milieu de l'histoire. Ah oui, bien sûr. Vous savez que le roi David est né en l'année, j'ai écrit ça quelque part, j'ai oublié de sortir le papier. Oui, ça, il est né en l'année 2854. C'est-à-dire le dernier des Ushpizim a attendu l'année 2854 pour naître. Vous savez qu'il aurait dû vivre, d'après le Midrash, 3 heures seulement. David, le roi David, était un avorton. Un avorton qui a réussi à s'en sortir quand même. Comment est-ce qu'il a fait pour faire ça? Eh bien, c'est très simple. Le Midrash nous raconte à nouveau des histoires à dormir debout. Il faut comprendre le Midrash à son langage. Adam Arishon aurait dû vivre 1000 ans. Parce qu'il est dit, le jour où tu vas manger de cet arbre, tu vas en mourir. C'est quoi un jour? Ben, c'est 1000 ans. Puisque 1000 ans, pour Dieu, c'est comme un jour. Et donc, Adam Arishon aurait dû vivre 1000 ans, mais la Torah nous dit, le pauvre, il est mort jeune, il est mort à 930 ans, il lui manque 70 ans. Le Midrash nous dit, c'est parce qu'il a vu que toutes les générations allaient en perdant de la longueur de vie, et ça arrivait jusqu'à David, et David devait ne pas vivre. Alors, Adam Arishon a donné 70 ans de sa vie pour que David puisse vivre. Effectivement, David a vécu 70 ans, grâce au don d'Adam Arishon. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que dans l'établissement de l'histoire des hommes, il y a une chute. Mais que cette chute, en fait, ce n'est pas une chute à un seul sens, c'est une sorte de parabole qui remonte. Et ça, le point le plus bas, c'est le roi David. C'est à partir du moment où David est là, tous les éléments nécessaires pour commencer l'histoire sont mis en place. À partir de ce moment-là, il peut maintenant commencer. Nous savons que l'histoire va réussir. Donc, il a fallu attendre le milieu de l'histoire pour que David naisse. Le milieu de l'histoire, c'est l'année 2854, n'est-ce pas? Vous multipliez par 2, ça vous donne 5708, c'est-à-dire l'année de la fondation de l'État d'Israël, qui est le parachèvement du processus historique. Maintenant, nous vivons déjà depuis un bon bout de temps dans ce temps de l'histoire où l'État d'Israël est rétabli, donc nous avons ce privilège, contrairement à toutes les générations qui nous ont précédés, d'être dans l'assurance que la fin de l'histoire, la réussite de l'histoire précisément, est enclenchée. Et donc nous pouvons en fait commencer une histoire véritable, parce qu'un monde sans l'État d'Israël, c'est en fait une sorte de préhistoire, c'est pas encore vraiment ça. Une fois que cet État est en place, toutes les données pour réussir sont en place. C'est la raison pour laquelle nous préoccupons tellement la communauté internationale. C'est une sorte d'obsession permanente du monde autour de l'État d'Israël. On pourrait même se demander si le monde, ce n'est pas des Juifs, tellement ils sont préoccupés de l'histoire d'Israël. Et donc, nous avons commencé un moment de notre histoire où il est devenu légitime, et même on pourrait dire presque un devoir, de se réjouir. Et c'est ce que nous commençons à ressentir dans cette fête de Soukhot, et que nous, parce que nous sommes dans ce moment de l'histoire qui devient un grand Soukhot. Nous avons trois fêtes dans l'année. Une fête qui commémore le passé, Pessah, une fête qui commémore le présent, Shavuot, et une fête qui commémore l'avenir, Soukhot, mais ça y est, l'avenir a déjà commencé. Chag Sameach.